Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue sur La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux qui la font. Et cette semaine je reçois un écrivain incontournable du paysage littéraire puisque je reçois Jean-Louis Fournier. Prix Fémina en 2008 pour Où on va papa, il publie « Je ne suis pas seul à être seul » aux éditions Jean-Claude Lattès. Ce livre est, je dois te dire, alors assez difficile à résumer puisqu'il s'agit d'un livre sur la solitude, à mi-chemin entre un recueil de pensées et un témoignage plein d'humour sur ce qui aujourd'hui fait que l'on est seul. Entre notre époque ultra connectée et les souvenirs de ceux qui l'ont quitté, l'ancien complice de Pierre Desproges dresse le portrait d'un sentiment plein d'ambivalence qu'on aime autant qu'on redoute, toujours avec, évidemment, l'espièglerie qu'on lui connaît. Et avec Jean-Louis Fournier, on parle de l'ambiguïté de cette solitude, du rôle de l'ennui, de la figure de sa femme qui a marqué son écriture, mais aussi de Verlaine, et oui. Bonne écoute. Bonjour Jean-Louis Fournier.
Bonjour monsieur.
Alors, ça va pas être le seul sujet, mais on va parler de solitude, parce que dans votre nouveau livre, il y a quand même deux fois le mot seul, rien que dans le titre, donc je pense que ça s'impose. Je vais vous poser une question qui, je pense, va un peu débroussailler pour notre conversation, va éclairer un petit peu le sujet. Il y a quand même une espèce de « je t'aime moi non plus » avec la solitude dans ce livre. En quoi c'est très ambivalent comme sentiment, si tant est que ce soit un sentiment?
J'ai envie de vous dire que la solitude, c'est la pire et la meilleure des choses. C'est actuellement vécu beaucoup comme la pire par beaucoup de monde, parce que c'est vrai, toutes les vieilles personnes tout seules dans la campagne, ouais. Tout ça, qui se sentent isolées. Mais quand on est au milieu des embouteillages et quand on se trouve dans les marées humaines de touristes dans les beaux endroits, on aspire très profondément à la solitude. Ouais, donc c'est la meilleure et la pire des choses. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en français, il n'y ait qu'un seul mot pour solitude.
Alors voilà, vous anticipez concrètement ma question, mais le français, la langue française, n'a que ce seul mot de solitude pour désigner une espèce de concept, alors que l'anglais, par exemple, en a deux. Tous les profs d'anglais, je vous invite à baisser le son, mais loneliness pour désigner la solitude qu'on ne choisit pas, et solitude qui implique que on est seul, mais par choix. Donc à certains égards, une langue, c'est un peu représentatif d'une société. Ça dit quoi de nous, Français, de notre rapport à cette solitude?
Le fait, alors évidemment, il y a des mots, il y a isolement, peut-être, mais en réalité, c'est le mot solitude pour les deux. Alors moi je mets ça, je fais une espèce de pirouette, je dis que comme les Français n'ont pas le flegme britannique, ça se lit sur leur visage. C'est-à-dire, quand ils parlent de solitude, la solitude choisie, ils ont une belle tête de moine épanouie, et quand ils parlent de la solitude tout seul, ils sont accablés, tristes.
C'est une très belle définition.
Oui.
Alors dans le livre, il y a ces voisins qui rythment un petit peu l'écriture à travers les volets fermés depuis votre poste d'observation. Ces volets fermés, par exemple, qui indiquent qu'ils sont partis en vacances, etc. Est-ce que c'est un bon support de solitude, la vie des autres? J'irais peut-être même plus loin, est-ce que c'est un bon indicateur de solitude?
Si vous voulez, c'est vrai qu'à un moment, je le mets, j'ai pas envie des autres, j'ai besoin des autres.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on est tous à des degrés divers, on a besoin des autres. On a besoin de notre boulanger, on a besoin de notre
garagiste. Oui, ne serait-ce que du regard des autres.
On a besoin des autres. Les autres, c'est vachement important. Et quand on écrit un bouquin, on a besoin d'un lecteur pour qu'il vous dise si c'est bien ou moche.
Ouais.
Quand on fait un tableau, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le regarde. On a toujours besoin des autres. Mais si vous voulez, quand les autres deviennent un petit peu trop abondants, des milliards, tout ça, là...
Comme dit Barthes, on a besoin si on n'a pas envie de solitude, on en a besoin.
Oui, moi j'ai bien aimé cette phrase.
C'est la citation au début.
Je n'ai pas envie de solitude, j'ai besoin de solitude.
Ouais.
Et je crois que la solitude, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir la gérer d'abord. Et que je pense, et j'ai fait une paraphrase de Descartes, quand il dit « je pense, donc je suis », moi j'ai ajouté « je pense, donc je suis seul ». Parce que je suis convaincu que quand on est seul, on pense mieux. On pense plus facilement, parce qu'on n'a pas les parasites de la conversation des autres.
C'est un parasite, la conversation.
Et quand on parle, si vous voulez, on dit pas, on pense pas toujours, on réfléchit pas. Quelquefois, on parle pour faire rire, on parle pour plaire, on parle pour faire plaisir.
Ouais.
Mais quand on est tout seul, j'ai l'impression qu'on est plus honnête avec soi.
Oui, il n'y a plus de nécessité.
On ne va pas se jouer la comédie à soi.
C'est ça.
On ne va pas faire croire n'importe quoi. Ouais. Et donc, je pense que c'est important d'être seul un peu. Je pense que la pensée se développe mieux quand on est seul. Elle n'est pas au milieu d'un brouhaha de conversations qui sont souvent mondaines. C'est plus... Montaigne le dit d'ailleurs à un moment.
Il dit quand vous avez
une grande propriété, il met ça dans les essais. Quand vous avez un grand domaine et des gens, il avait des gens, il faut garder dans votre domaine une petite arrière-boutique, il appelle ça l'arrière-boutique, il dit avec qui vous serez avec vous, avec tout qui ça. Vous allez pouvoir vous parler, vous entendre. Et en plus, comme ça, vous vous habituerez à être sans personne, à vous passer des gens. Donc le jour où les gens mourront, le jour où vous perdrez votre fortune, vous ne serez pas démunis parce que vous serez habitué.
Ça rejoint un peu Épictète, à ne rien avoir. Les stoïciens. Une question un peu risquée, je pense, mais bon, on a qu'une
idée. Allez-y, risquée.
Stylistiquement, si je vous dis que c'est un livre, évidemment pas simpliste, mais simple, avec une certaine économie de mots, est-ce que c'était votre but ?
Ah ben bah moi, pour moi, c'est le plus beau compliment.
Ah bah,
tous les livres qui débordent de mots, je les laisse de côté parce que je m'y ennuie. Si vous voulez, moi je considère qu'un livre, enfin pour moi, c'est un jardin dans lequel il faut essayer qu'il y ait le moins possible de mauvaises herbes.
D'accord.
Et donc nettoyer un texte, corriger un texte, c'est en général retirer les mauvaises herbes. Pour qu'il y ait que les choses qui
sont essentielles.
Et donc, moi, ça me paraît important. Et je pense que quand, dans une phrase, on met, pour définir quelque chose, on met trois adjectifs, c'est qu'on n'a pas trouvé l'adjectif.
D'accord. C'est un aveu de faiblesse pour vous.
Oui, je crois. Et je crois que c'est ce pourquoi je me bats depuis très, très longtemps, c'est de mettre le moins de mots possible. Et je trouve que quand il y a moins de mots, ils ont encore...
Plus
ils ont plus de sens, ils expriment plus. J'ai l'impression que moins on en écrit, plus on en dit. Parce qu'il y a les sous-entendus. Dans les livres, bien c'est sûr. Très important, les sous-entendus, parce que c'est les lecteurs qui vont les mettre. Et donc, il faut leur laisser de la place. Un livre, ça se fait à deux, avec un mec qui l'a écrit, un mec qui le lit. Et celui qui le lit, il participe
Oui, il construit l'œuvre également.
Ça, moi, je laisse toujours des grandes interlignes, comme ça, les gens peuvent se glisser dedans.
Ouais. En quoi, justement, en parlant de ce mec qui écrit, en quoi votre métier, votre travail d'écrivain, ça conditionne et ça entretient la solitude ?
Oh, ça,
il y a des raisons concrètes, bien sûr.
J'ai envie de dire que c'est une occupation exceptionnelle d'écrire. J'ai une chance extraordinaire, en plus d'être... Maintenant, j'ai une petite clientèle, donc je suis lu. Et ça, c'est un bonheur absolument intense. Et ça meuble mon esprit. Quand je suis en train d'écrire un livre, par exemple, je ne pense plus qu'à mon bouquin. Et le soir, je pense à des mots. Je vais dire, au lieu de mettre ce mot-là, je vais mettre plutôt celui-là.
Comme vous relevez la nuit.
Joue au Lego.
Vous relevez la nuit pour...
Ah non, mais je ne me relève pas, c'est pas... Mais quelquefois, je mets j'ai un petit bout de papier sur ma table de nuit et je marque des choses parce que j'ai trouvé un mot qui sera mieux. Et c'est passionnant, ça.
Ah bah, c'est un vrai travail, pour le coup.
C'est exceptionnel. Ouais. Exceptionnel.
Plutôt, quel est le rôle de l'ennui pour vous ? Quelle place il a dans la solitude ? Parce que vous l'évoquez également dans le livre.
L'ennui, pour moi, c'est pire que tout.
C'est
l'ennui,
pire que tout.
C'est un électroencéphalogramme plat. C'est-à-dire que c'est tous les temps d'ennui qu'on aura eu dans sa vie, c'est de la vie perdue. C'est qu'on ne vit plus quand on s'ennuie. S'ennuyer, c'est absolument, pour moi, intolérable.
Vous ne pensez pas qu'il faut savoir s'ennuyer dans une pièce ?
Non, mais il faut pas. Non, je peux pas m'ennuyer. Moi, c'est quand je suis avec des gens ennuyeux, par exemple, c'est intolérable. Quand je lis un livre qui m'ennuie, c'est intolérable. Quand je vais au théâtre et que je m'ennuie, et je m'ennuie, j'ai envie de dire très très souvent, parce que j'attends toujours des choses qu'elles me passionnent.
Mais justement, en rapport avec cette solitude, est-ce que vous vous ennuyez quand vous êtes seul ? Et ça peut arriver quand même.
Je m'ennuie pas trop avec.
C'est vrai.
Vous allez me dire, je me contente de peu, peut-être.
Bah, c'est déjà pas mal, mais...
Je ne m'ennuie... Non, je ne m'ennuie pas trop, parce que j'ai la chance d'avoir toujours dans ma tête des tas de trucs qui se passent, des espèces de petites étincelles qui s'allument. Je pense à des idées inavouables, des idées avouables, des idées marrantes et tout ça. Et ça, c'est passionnant.
Le titre du livre, « Je ne suis pas seul à être seul », est inspiré du livre de Stéphanie Janicot, Tu n'es pas seul à être seul, qui a été publié chez Albin Michel en 2008.
C'était au féminin, hein, si tu n'es pas seul, c'est une fille.
Oui,
hein.
C'était au féminin, ouais. Pourquoi il n'y avait pas mieux comme titre ?
Parce que j'aime bien ce titre, je ne suis pas seul à être seul. Parce que la dernière fois, j'étais chez mon marchand de journaux, là, ouais. Et le livre était posé sur le comptoir.
Ok. Tout va bien.
Le livre était posé sur le comptoir et il y avait un monsieur qui était en train d'acheter, je ne sais pas quoi, un journal et tout ça. Il a regardé, il a dit « Ah, ça, c'est bien vrai. » Et je me suis dit « Ah bah tiens, c'est un bon signe. Je crois que je ne suis pas seul à être seul. Je crois que c'est un bon titre, si vous voulez. »
Ça l'est, mais...
Je ne suis pas seul à être seul, parce que on est rempli de solitude dans cette foule.
Ah, ça.
Au milieu de la multitude. La multitude, c'est une juxtaposition de solitude. Et j'ai envie de dire que plus la multitude est grande, plus on se sent seul.
Ah bah, c'est un...
Quand vous êtes dans un embouteillage, quand vous êtes... Et actuellement, quand vous écoutez un peu à la radio les départs de week-end et tout ça, vous êtes terrifié, parce qu'on vous parle de 600 km de bouchons.
600 km de personnes seules.
Mais vous vous rendez compte, c'est quand même... C'est inimaginable,
ouais.
Ça.
En quoi c'est être égoïste de vouloir être seul ? Vous le dites vous-même, hein, page 48 exactement. Je n'aime pas toujours les autres, mais j'aime que les autres m'aiment. Si j'appelle souvent les autres au téléphone, ce n'est pas pour avoir des nouvelles d'eux, c'est pour leur donner des nouvelles de moi. On est obligé d'être égoïste, d'être misanthrope, j'ose dire, pour être correctement seul, pour être bien seul.
Moi, je suis très égocentrique.
Ouais.
Bon, un petit peu, si vous voulez, peut-être que les écrivains le sont tous un peu. Moi, j'adore...
Beaucoup de gens.
Oui, parce que moi, j'adore parler de moi, si vous voulez. Je suis très content quand on parle de moi.
Bah, bienvenue.
Sauf si on dit c'est un pauvre type, ça, c'est oui. Autant qu'on ne parle pas. Mais quand on dit, moi, je suis aux anges. Bon, je lis dans un journal qu'on a bien aimé mon livre. Donc, j'ai besoin des autres, si vous voulez, pour me rassurer.
Parce rassurer que de quoi
la sur moi. Parce que chaque fois que j'écris quelque chose, je me dis...
Est-ce sur votre valeur ?
Oui. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Ouais. Je suis... Alors, vous allez me dire, bon, maintenant, vous avez fait des bouquins, j'ai eu quand même pas mal de...
Prix Fémina, 2008.
Mais il n'empêche que je suis comme le parachutiste qui saute pour la 500e fois. Il a sauté 500 fois, ça s'est bien passé. Il dit, bah oui, mais là, c'est trop.
Ouais.
C'est toujours ça, c'est qu'on a toujours... Et je pense que le fait d'être inquiet... C'est plutôt bon signe.
C'est preuve d'intelligence.
C'est bon signe parce que ça oblige à une grande vigilance,
ouais.
un grand soin, c'est pas faire n'importe quoi en disant. Et puis moi je me dis une chose, c'est comme j'ai quand même, je connais pas mal des lecteurs, j'ai des courriers avec eux, c'est que je me dis, faut pas que je les déçoive.
D'ailleurs, ils pensent quoi vos lecteurs de
Ouais, j'ai toujours peur qu'un jour il y a qui dit, oh ben maintenant, on dit Fournier, il est fini maintenant. Ça c'est terrible. Fournier, il est fini. Alors ça me... Donc chaque fois, j'essaie de faire ce que je pense le mieux possible, faire du bon travail, dont je sois fier, et quand je relis mon livre, de dire, tiens, c'est pas un livre de plus, c'est un livre qui est
ce
bien.
Ce qui est quand même l'essentiel.
Oui, moi c'est important.
Vous parlez beaucoup enfin pas beaucoup d'ailleurs, vous parlez un peu de Sylvie, votre femme qui est décédée. Vous en avez d'ailleurs fait un livre qui s'appelle Veuf en 2011. Vous en parlez beaucoup comme quelqu'un qui construisait votre solitude à travers votre duo, un peu comme si vous étiez, je ne suis pas sûr de cette expression, mais seul ensemble. En tout cas, vous dites que vous êtes le survivant du couple. En quoi elle est différente, la solitude, lorsqu'on est seul, lorsqu'on est concrètement seul, lorsqu'on est physiquement seul ?
Si vous voulez, c'est vrai que perdre comme ça quelqu'un avec qui on a vécu, j'ai vécu 40 ans, qui fait partie, j'ai envie de dire, elle fait partie des meubles. C'était
ouais.
Un meuble précieux et qu'on s'est habitué.
Il y a une histoire d'habitude qui vient.
Et puis il y a surtout aussi une chose, c'est que moi j'ai toujours besoin de quelqu'un pour évaluer ce que je fais. Et c'est-à-dire que ma femme était parfaite pour ça. Chaque fois que j'écrivais une page, j'allais lui montrer.
Bah après aussi parce que son regard vous importait.
C'est bien ou c'est pas bien.
Ouais.
Et j'avais tout d'un coup, ça me rappelle un souvenir d'enfance quand j'étais petit et je crois que c'est courant à tous les gosses, quand j'étais petit et que je faisais ou bien un dessin,
ouais.
Mais tout petit, alors à ce moment-là, à 6-7 ans, un dessin ou bien... Quelquefois j'écrivais, j'essayais de faire des espèces de petits poèmes ou des petites conneries, il fallait absolument que je le montre à ma mère. j'allais le montrer à ma mère.
Il y avait toujours ce
parce que
besoin
c'est à ce moment-là
jugé,
que le monde, si elle me disait c'est bien, ça y est, je me disais c'est bien ce que j'ai fait.
Mais vous aviez besoin d'un jugement.
Et j'ai continué à chercher des mamans qui me disent c'est bien ton dessin.
Des points d'ancrage.
Et j'ai envie de dire que mes éditeurs, à la limite, sont un peu ça aussi. C'est les mamans qui me disent continue, c'est bien mon garçon.
Sauf que là, c'est leur métier. vous le dites toujours avec cet humour qui vous caractérise et qui fait votre force, avec ce recul, comme certains disent, cette espièglerie. Vous le dites avec cet humour, la solitude n'est pas une fatalité. Vous ne seriez pas prêt à vivre avec une sotte comme vous dites. Pourtant, vous dites également que vous vous êtes marié deux fois pour pas être seul. Vous avez peur de quoi? C'est quoi le pire, être seul ou avoir peur de l'être?
J'ai envie de dire que c'est un mélange, c'est ça qui est terrible, c'est que je mets un moment, j'ai autant peur d'être seul que de ne pas être seul.
Ouais, c'est très ambivalent.
C'est-à-dire que c'est une ambivalence qui tient à ma complexion, c'est-à-dire que quand il fait chaud, j'ai envie d'avoir froid, quand il fait froid, j'ai envie d'avoir chaud.
Ouais, vous avez trop chaud.
Et quand je suis au milieu de la foule, je veux être tout seul, et quand je suis tout seul, je voudrais être avec les gens.
Je pense que c'est assez universel, ça, quand même.
C'est l'humanité, un petit peu. On est tous un peu comme ça. C'est vrai que être... Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je pense que vraiment... la solitude est la pire et la meilleure des choses, et qu'on est dans une époque actuellement où on aurait tendance à ne voir que le côté pire de la solitude, de dire que c'est terrible d'être tout seul.
Vous utilisez les réseaux sociaux?
Non, pas du tout.
J'avais la réponse, mais
non,
du coup, vous n'avez pas vraiment d'avis là-dessus.
Le monde des réseaux sociaux, je ne connais pas du tout. Je suis très inquiet quand je vois le niveau de certains textes qu'on imprime.
Et ça, c'est vrai?
Ça me navre un peu. Moi, je vois quelquefois sur mes livres, je vois des remarques, tout ça. Je suis un petit peu gêné pour ceux qui l'ont écrit. Et la dernière fois, j'ai lu un truc d'Umberto Eco qui disait qu'avant, les bêtises, on les disait au bistrot, à l'heure de l'apéritif.
Maintenant, c'est
c'était
sur les
pas grave, elles s'évaporaient. Elles ne duraient pas. Tandis maintenant, les bêtises, elles durent.
Ouais. Et puis, elles font parfois des
polémiques. Elles peuvent faire beaucoup de mal. Parce que la bêtise, ça ne fait pas beaucoup de bien à personne.
Investir ce thème paradoxalement si universel et inhérent à l'homme, et que vous auriez pu traiter avant, investir ce thème à ce moment-là de votre carrière, ça a quel sens?
Si vous voulez, ça a un sens, c'est que c'est les conditions de ma vie qui m'ont amené à ça.
Ouais.
C'est que je me deviais, mon cercle d'amis se rétrécit, parce qu'il y a pas mal d'amis qui s'en vont au ciel, en enfer, et j'ai ma femme qui est partie. J'ai une fille avec qui j'ai des gros problèmes que je ne vois plus.
Sur laquelle vous avez écrit un livre il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs.
Oui, et j'avais deux pauvres gamins handicapés qui sont plus de ce monde. Donc, si vous voulez, je suis arrivé à un moment où je suis quand même un petit peu plus seul. Il faut relativer tout ça. C'est pas une grande plainte du mec qui se sent... Parce que je ne suis pas seul. J'ai énormément d'amis. J'ai tous les voisins ici. J'habite dans un coin absolument privilégié.
Oui, on est très bien.
J'ai beaucoup d'amis. J'ai vraiment... J'ai beaucoup de numéros de téléphone.
Il y a une vie de quartier aussi,
j'imagine. Oui, c'est formidable. Oui. Et puis je m'entends bien avec les gens. Je ne suis pas comme certaines personnes qui sont au fin fond, au centre de la France, tout seul et qui ne voient jamais personne. Ce n'est pas vrai du tout. Je vois tout le monde. Je vois tout le monde que je veux. Mais il n'empêche que, si vous voulez, être... c'est vrai, quand on perd quelqu'un avec qui on vivait pendant 40 ans, on était habitué toujours d'avoir une réaction, de pouvoir, si vous voulez, j'ai envie de dire que je me sers des autres pour me tester, pour savoir si ce que j'ai dit est bien, si c'est pas bête, si c'est pas... Je crois beaucoup, c'est ce que je mets un moment dans mon bouquin, je pense que les autres, ils sont très importants parce qu'ils nous aident à voir clair dans nos pensées, parce qu'une pensée, c'est quelque chose qui n'est pas verbalisé. C'est une pensée, c'est un truc flou qui se promène dans la tête. Elle est en état gazeux, la pensée, tant qu'elle n'est pas dans les mots. Mais quand on commence à mettre des mots dessus...
C'est comme conserver, en fait.
Oui, et quand on met des mots, on la fige.
Ouais.
Et à ce moment-là, on peut avoir la réaction des gens. Et tout d'un coup, on peut juger si ce qu'on a fait était bien ou pas bien. Tout seul, on est un petit peu complaisant
oui,
à son égard.
Une espèce de
tandis que les
recul.
Autres ont un regard plus, ont du recul et peuvent vous aider. Moi, ouais. je le mets à un moment, je dis que les autres, c'est un peu comme une meule sur laquelle on peut polir ses idées. Et je crois que ça, c'est une image qui me tient à cœur parce que je crois que ce n'est pas totalement faux.
Mais qui est relativement vrai, oui.
Oui.
Cette approche frontale avec la solitude, elle vient peut-être aussi, sans vouloir vous faire offense évidemment, de votre expérience. Est-ce qu'on perd des choses? Enfin, on perd des choses, c'est inévitable, mais qu'est-ce qu'on gagne quand on vieillit? L'indulgence?
On gagne pas mal de choses. J'ai fait un bouquin, puis même un spectacle au Théâtre du Rond-Point sur
c'est
mon
vrai.
Dernier cheveu noir,
ouais.
où justement j'essayais de dire que, debout les vieux, on n'est pas foutu quand on est vieux, on est, au contraire, on a une espèce de sagesse, on peut exagérer, quand on est fou, on est toujours fou, on a une espèce de recul, c'est-à-dire que, et puis il y a surtout une chose qui est très importante quand on vieillit, c'est qu'on n'est plus obligé de plaire.
C'est vrai ça?
Quand on, bah, oui, quand même.
Et ce livre-là que vous
non,
avez
Non, mais moi j'essaie de plaire avec... Mais on n'est plus obligé de plaire, si vous voulez, professionnellement. Moi, j'ai passé ma vie à cirer les pompes de plein de mecs qui avaient le pouvoir de décision.
Ouais.
J'étais obligé de leur dire qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient intelligents, que je les aimais bien. Quand j'en avais rien à foutre, je voulais simplement qu'ils me signent un contrat. Pour faire, c'est, notre vie, elle est faite de ça, beaucoup quand même. La majorité de tous les gens actuellement qui nous écoutent, ils dépendent de la décision de quelqu'un.
Toujours.
Et donc, ce quelqu'un-là, il faut lui plaire. Et
oui,
ça, c'est terrible,
vrai.
Surtout dans les boulots artistiques. Bon, cela dit, moi, j'ai trouvé des décideurs qui étaient des gens bien aussi. Hein. Je ne vais pas faire une image de disant que tous les gars qui décident sont
non, des, je pense que tout le monde sait que c'est faux,
aussi,
bien sûr.
Mais il y a aussi quelques abrutis, notoires. Et dans les trucs artistiques, c'est terrible. Des gens qui ont mauvais goût et vous voulez faire une belle chose parce que vous pensez être beau et l'autre vous dit non, ouais. Ce sera plus beau comme ça. C'est terrifiant. Bon, dans le monde de l'édition, grâce au ciel... On rencontre très peu ça, on rencontre beaucoup de gens de très bonne qualité. C'était dans l'audiovisuel où les choses étaient à la télévision. Moi, j'ai fait beaucoup de télévision.
Vous avez même été le compère de Sacha Guitry.
Ah, j'ai eu Pierre Desproges.
De Pierre Desproges, pardon.
L'ami Desproges. Mais c'est vrai qu'à la télévision, c'était quelquefois, on avait l'impression d'avoir une bonne idée. Et puis, on tombait sur quelqu'un qui n'avait pas compris ce qu'on voulait faire.
Oui, il y a une espèce de souci de communication en plus de là.
Il y avait un problème de communication. C'est pour ça que les autres, j'ai envie de dire, c'est comme tout, c'est la pire ou la meilleure des choses. Être sur une île déserte avec un abruti, bah, je crois que c'est faut mieux qu'il soit pas là. Quelquefois, l'autre, c'est mieux,
oui,
qu'il n'y ait pas d'autre.
De dicton un peu nul, mais on est toujours mieux seul que mal accompagné, quoi.
Bah oui, mais c'est évident ça.
Une question un peu plus large. Est-ce qu'il peut y avoir de l'écriture sans souvenir, sans mémoire?
Ben, si vous voulez, sans mémoire événementielle, oui, sans mémoire des événements,
je pense à
l'absurde,
par exemple.
Mais sans mémoire affective, non. Je crois que tout ce qu'on écrit, c'est de la mémoire affective. C'est les états qu'on a ressentis, les émotions et toutes ces choses-là. Qu'on retranscrit après. Les événements, oui, parce que c'est ce que je mets à un moment, c'est que quand on arrive à un certain âge, il y a une espèce de confusion qui se passe dans le bric-à-brac de nos têtes entre les souvenirs et les choses inventées. C'est-à-dire que la frontière entre... Comme moi, je passe mon temps à inventer des trucs,
ouais.
Entre le vrai et le faux, je ne sais plus très bien ce qui est vrai et pas vrai.
Est-ce que c'est grave?
Bon, à la limite, non. Mais, et puis, j'ai de moins en moins de gens à qui je peux demander, tu te souviens.
Ouais.
C'est ce que je me dis beaucoup. Je trouve que être vraiment seul, c'est qu'un jour, sur Terre, il n'y aura plus personne à qui je puisse dire, tu te souviens. Et ça, c'est terrible. Moi, par moments, j'oubliais des événements et tout ça, j'appelais ma mère. Elle me disait, bon, ma mère est morte. Bon. Après, j'appelais mes frères, c'est toujours Et quand tout ce monde disparaît, on est obligé de se souvenir tout seul. On ne peut plus vérifier si c'était vrai ou pas vrai. Ou ça, c'est un moment. Je le mets un moment, d'ailleurs. J'imagine la vie du dernier homme sur la Terre.
Ça doit pas être...
On parle toujours du premier homme, mais le dernier, ça ne va pas être très marrant. Hein.
Pas trop.
Sa fin de vie.
Vous gardez, du coup, des photos,
ben,
des
oui,
écrits,
puis
tout ce que vous pouvez garder.
Dire, je ne reconnais plus quelqu'un, mais à qui je vais demander qui c'est. Si tous les autres sont...
Bah, à votre chat, Art Déco,
oui, je
peut-être.
Peux demander à mon chat, mais elle n'est pas bavarde.
Ce livre, il fait près de 200 pages. En 200 pages, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ou pas osé dire, peut-être, sur la solitude?
Oh, certainement plein de choses encore, mais je peux pas vous le dire là justement. C'est parce que c'est pas de la censure, parce que j'ai pas une pudeur imbécile.
Ça pourrait.
Je parle de tout ce que je ressens. J'essaie de dire les choses les plus justes. Oh, il y a certainement. Si encore par moment je me dis tiens, ça j'aurais pu parler de ça, Mais bon, je pourrais éventuellement le mettre dans un autre bouquin, parce que là maintenant ça m'intéresse de m'occuper comme ça de ces thèmes au lieu de prendre simplement un truc qui soit autobiographique. Mais simplement autobiographique, c'est de mettre de l'autobiographie dans des parler de choses. Alors là je voudrais faire un livre sur l'impatience, parce que je trouve que l'impatience dans notre époque est absolument hallucinante. On veut aller à New York en 5 minutes,
et encore vous n'utilisez pas les réseaux sociaux,
mais c'est ça, on veut tout de suite maintenant. Et c'est terrible. Ça me fascine, cette histoire d'impatience.
Vous êtes impudique, Jean-Louis Fournier.
Impudique ?
Ouais. Parce qu'on a souvent tendance à vous assimiler à une espèce de littérature de l'intime, vous savez.
Impudique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas pudique, non. Je ne suis pas pudique parce que, si vous voulez, j'ai envie de raconter des choses, et puis je considère qu'un livre, pour moi, c'est un striptease où on ne peut rien cacher.
Quand est-ce que vous avez compris qu'être écrivain, c'est parler de soi ?
C'est parce que, si vous voulez, j'ai eu envie de parler de moi.
Et donc, tous les écrivains parlent d'eux d'une quelconque manière, vous voyez ?
Bien évidemment, même quand on fait de la fiction, simplement, ils mettent des costumes à leurs souvenirs. Ils les mettent en costume d'époque. Mais c'est toujours. On parle de. Si vous voulez, j'ai envie de dire qu'on parle de ce qu'on connaît. Et moi, la seule chose que je connaisse un peu. Enfin, que je connaisse le mieux, c'est quand même moi.
Mais comme tout le monde.
Je connais mieux moi que les autres, forcément. Mmh. Parce que je suis avec moi tout le temps. Je connais tout.
Je vous souhaite,
les défauts.
est-ce qu'il y a des écrivains de la solitude qui vous ont inspiré ? Ou des livres, peut-être ?
Il y a plein. Oui, mais pas particulièrement un écrivain, parce que les grands écrivains, ils m'impressionnent beaucoup. Quelquefois, je me dis, je suis gonflé d'écrire quand je vois un peu comme des. Les grands, grands écrivains écrits, je vous dis vraiment, c'est gonflé. Mais bon, pourquoi pas, chacun fait à sa mesure. Mais non, peut-être Camus un peu, peut-être L'étranger, peut-être là où il y a un problème de solitude. Il y a beaucoup de solitude dans les livres, en réalité.
La
métamorphose de Kafka, par exemple, c'est aussi un problème terrible de solitude. C'est un sujet vachement intéressant, la solitude.
Et c'est d'ailleurs... Tout l'objet du livre. Une dernière question que je pose à tous mes invités. Quel est votre dernier ou vos derniers coups de cœur culturels ? Pas forcément des nouveautés, mais que vous ayez lu, vu, entendu.
Mes derniers coups de cœur culturels, on m'a offert un beau bouquin.
Ouais.
Superbe. Sur Verlaine.
Ok.
Le poète.
De qui il est ce
Stéphane Zweig, qui l'a écrit en plus. Ouais. Et Stéphane Zweig adorait la poésie française et tout ça. Et tout d'un coup, je me suis aperçu, moi qui ai toujours dit que la poésie, ça m'emmerdait redoutablement. Je trouvais que la poésie, finalement, ça se faisait pas, la poésie. La poésie, c'est un truc qui tombait du ciel, c'était une grâce. Mais le mec qui se met à sa table pour faire de la poésie, ça me paraissait absolument aberrant. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était la poésie. Et Verlaine, c'est quand même...
C'est ce qu'on appelle un pont, hein.
Oh là ! Et avant, quand on me demandait quel est le poète que tu préfères, c'était Prévert. Et c'est vrai que je trouve que Prévert, c'est génial. Parce qu'il y a pas... Et puis, il traîne pas dans ces phrases, les accessoires poétiques, les feuilles d'acanthe, tous ces trucs comme ça qui
vous dépassent.
Oh là. Mais alors, Verlaine, quand même, là, en lisant Verlaine, je me dis... Ah, ce que c'est. Puis alors, ce que je suis frappé par une chose, là, c'est Zweig parle de la vie de Verlaine et la vie de Rimbaud. Les vies de ces gens sont des trucs terrifiants. Terrifiant de difficultés, ce qu'ils ont du mal à vivre, tous ces gens très doués, tout ça. Ces vies limpides, tout ça, c'est pas pour eux. Hein. Là, quand on voit un peu ce qu'ils ont vécu, là, ce qu'il a vécu, le pauvre Verlaine, c'est...
Ils sont morts jeunes.
Et puis en plus, ils meurent jeunes. Puis ils sont pas installés dans... Ils sont pas faits... Le monde n'est pas confortable pour eux. Ils ne sont pas installés dans le monde.
Peut-être l'époque aussi.
Et c'est pour ça qu'ils font des choses exceptionnelles, d'ailleurs, justement, pour essayer de toucher le ciel par leur œuvre, parce que leur vie est quelque chose de dur. Mais moi, je suis frappé de ça. Je suis frappé quand, souvent, il y a des gens qui parlent des vedettes en disant que ça doit être extraordinaire. Mais je trouve que ça doit être... C'est terrible, tous ces gens qui sont au-devant de la scène, tout ce qu'ils ont... vécu de dur et tout ça.
Ça existe encore aujourd'hui, ce...
Dans les comédiens, moi, je pense à Romy Schneider, que j'aimais beaucoup, et j'ai vu un documentaire très beau sur elle. Okay. Elle a une vie très très dure, avec des drames, avec des choses épouvantables. On ne sait pas tout ça.
On ne sait pas.
Les gens voient que les sourires et les paillettes. Et
c'est leur métier de
la vie de
ces
gens,
ça,
elle est très très dure.
Ouais.
Mais je crois que c'est toujours dur de vivre. Hein, je pense que la vie est une chose, que la vie est quelque chose de terrible, mais passionnante.
Eh bien, c'est une très belle parole de fin. Merci beaucoup, Jean-Louis Fournier.
Merci, Jérémy.
Eh bien voilà, la quille s'est terminée pour cette semaine. Merci beaucoup une nouvelle fois pour votre écoute. Si l'épisode vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est très important. Et puis à en parler autour de vous, hein, je pense que c'est le plus essentiel. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.